Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimons, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Et le jeune, l'enfant qui n'a pas cette vie de famille, qui ne sent pas l'esprit de famille, comme nous sommes conçus pour nous exprimer en premier lieu dans la famille, il lui manque quelque chose. Et comment il va exprimer sa colère, puisque la colère ça se gère, vous voyez les cassettes sur le deuxième séminaire. Il va exprimer sa colère en allant dans un autre cercle relationnel. Et là, on a affaire à un phénomène que vous connaissez, ce sont les bandes. Ça ne veut pas dire les bandes, les loubards. Ça peut être des gens sympathiques qui vont passer du temps à faire de la musique. Mon fils joue de la musique, mon fils fait des trucs, c'est pas de problème. Mais son premier cercle relationnel, c'est la famille. C'est pas les autres musiciens avec qui il est. Et je dirais, c'est même pas l'église. D'accord? Et pour celui qui n'a pas de famille, celui qui viendrait comme parachuté du ciel, alors l'église devient une famille. Et dans la parole de Dieu, il dit « famille des peuples rendrait les gloires ». Et que le peuple de Dieu est constitué de familles. C'est pour ça que nous appelons frères et sœurs entre chrétiens, entre autres. Parce que nous sommes issus du même père. Ça, c'est le pasteur qui parle. Ça y est, c'est parti, mon kiki. Mais en plus, nous sommes frères et sœurs. Il y a cette notion de famille dans l'église. Mais elle ne doit pas, si la famille biologique, là, je reviens sur une biologique, enfin, je sais pas qui c'est qui avait réagi tout à l'heure en biologique. Je sais pas quel mot on pourrait employer d'ailleurs à la place de biologique. Que j'ai comme adopté il y a 5 ans, 6 ans, je sais plus d'ailleurs. Elle m'appelle papa. Son père biologique, elle, famille de cœur. Voilà, la famille de cœur. C'est l'endroit où l'enfant doit pouvoir être. Et c'est pour ça qu'on voit tout ça. C'est là où il doit être écouté, c'est là où il doit être accepté, c'est là où il y aura cet amour inconditionnel que vous avez tous manifesté. Il y a cet amour-là. Et si on ne donne pas cet esprit famille à notre enfant, il sera en colère. Et à quoi on le voit? C'est qu'il manifeste cet esprit-là avec une autre famille. Ça peut être ceux de la route. Ça peut être la drogue, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi d'autre. Des choses bonnes, une activité sportive. Il va être tous les jours au stade ou tous les deux jours. J'ai rien contre le sport, j'aime beaucoup le sport aussi. Hein, d'accord? Mais ça doit jamais se substituer. La famille, le centre, ça doit être la famille. Et nous devons travailler, nous, en tant que parents, à ça. Et je vous assure que c'est jamais trop tard. Quel que soit l'âge de nos enfants. Oui. Est-ce que quelqu'un a des exemples par rapport à ça où on a suffisamment parlé?
Ouais, moi j'ai exactement un exemple pile poil là-dessus. C'est on est trois enfants et donc deux filles et un garçon et le dernier. Mais il nous a vu vivre, il a vu ses grandes sœurs vivre et vivre des choses avec les parents. Et il a vu que dès qu'on ouvrait la bouche, tout de suite ça dégénérait. Donc, à un moment donné, très tôt, hein, il a compris qu'il fallait pas parler. Alors, il ne partage absolument pas sa vie avec les parents ou même ses sœurs, hein, avec nous. Quand il a trouvé une fuite, le sport, et il est, on va dire, tout le temps au club d'aviron. Et les dimanches, il n'est pas à la maison. Demain, justement, on a un repas de famille, il sera pas là. Voilà, c'est le sport qui passe avant tout.
Et le drame dans de tels cas, c'est qu'on peut avoir des parents tout contents qui vont dire, mais depuis qu'il fait du sport, ah, il est vraiment épanoui. Et nous qui connaissons le cœur de Dieu et de ce que Dieu veut, nous n'allons pas le dire parce que jamais, en aucun cas, hein, Dieu n'accuse et nous, on n'a pas le droit d'accuser. Mais la réalité, c'est qu'il épanouit au sport parce que dans la famille, il n'arrive pas à être épanoui. Parce que les parents ont raté le coche à un moment donné. Donc, soyons des fois vigilants, hein. Si un enfant s'épanouit à l'extérieur, plus qu'à l'intérieur, j'oserais dire, qui sont épanouis au sport, gloire à Dieu, mais ils devraient être au minimum plus épanouis à la maison qu'au sport. Sinon, il y a quelque chose qui cloche un peu, et l'enfant en veut. C'est quand on a des relations d'aide avec des adultes. L'adulte, c'est celui qui a passé le cap d'enfant, ça on le sait tous. On a fait d'autres études théologiques pour découvrir ça d'ailleurs. Et si on a des adultes qui ont été frustrés au niveau de la famille, pourtant qui ont été peut-être des brillants sportifs ou des brillants musiciens, ils disent, mais moi c'était la musique. Pourquoi? Parce qu'avec papa, je vivais rien. La danse, parce qu'avec maman, papa, je vivais rien. Là, au moins, dans le sport, je me suis éclaté. Et là, on décèle la souffrance de l'enfant. Donc, nous, en essayant de travailler cet esprit de famille, et puis que on puisse le développer, et puis ça va être important. Le 15e point, il y en a 30. Vous voulez qu'on s'arrête 5 minutes? Non? Sinon, on peut s'arrêter 5 minutes et puis reprendre dans 5 minutes, hein? Non? 15e point. En laissant se développer dans la famille des conflits de rôle. Qu'est-ce que c'est des conflits de rôle? Un exemple.
Moi, j'ai une fille qui est Manon, qui fait de très bonnes études parce que ça l'intéresse, elle est motivée, on sent que c'est sa voie. Et il y a sa sœur cadette qui la suit 2 ans, qui elle a beaucoup de difficultés pendant 3 ans. Et elle a entendu toujours les compliments pour sa sœur parce qu'elle travaillait bien. Et il y a eu une confrontation de rôle, une confrontation de façon de se situer qui était très frustrant pour Marie, pour celle qui avait des difficultés.
Conflit de rôle aussi, c'est vrai, ça peut être quand on demande à la plus grande d'être une petite maman. Ben c'est sûr que l'enfant qui est là, derrière, celui qui est dessous, la petite maman qui ne devrait pas être une maman, à un moment donné, toujours dit, ça c'est une source de colère. Et si nous, parents, nous sommes là dans la maison, on doit être vigilant à ces choses-là. C'est-à-dire que la sœur est un rôle de grande sœur, mais jamais un rôle de petite maman. Je sais que nous, par exemple, quand on a eu le 3e, Nathanaël, ben Sandrine, qui est de combien d'années, l'aînée? 12 ans. Ben, à un moment donné, elle va l'allaiter, quoi. Ben, on n'avait plus droit à la parole. Bon, ça a été bref, mais ça s'est quand même manifesté. Et ça veut dire que par la suite, quand, j'ose dire, on a eu besoin de Sandrine, non pas en tant que maman, mais parce qu'on devait s'absenter, mettons, 2 heures ou 3 heures, qu'elle devait s'occuper de son petit frère. Il fallait redonner des paramètres précis, des conditions précises, un canevas précis, une trame précise, des limites précises, afin qu'elle ne devienne pas la maman. Et donc, il faut être vigilant. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Des conflits de rôle. Quand on demande à l'un de jouer un rôle qu'il n'a pas à jouer. Ça engendre la colère aussi dans les enfants. Oui.
Oui, il faut faire attention à la façon dont ça se passe entre les enfants aussi, parce que des fois le plus grand va reprendre le plus petit, mais il n'a pas forcément tous les éléments, toute la maturité pour le reprendre là où on est, là où il en est en fait. Il y a des choses pour lesquelles, par exemple, le plus petit à l'âge de 14 ans en tant qu'ado, on disait rien. Il nous sortait des bêtises et on disait rien parce que ça lui passera. Et on n'a rien à dire des fois. Ils ont des réparties qui sont de leur âge et puis qui sont bêtes. Bon, c'est lié à l'âge, on le sait. Donc on laisse faire. Par contre, ceux qui sont un petit peu plus grands, eux, vont automatiquement regimber et traiter l'autre d'imbécile. Il n'a rien compris et puis se placer au-dessus, et ça c'est des terrains sur lesquels on a veillé aussi, on a veillé. Et c'est vrai que le conflit de rôle, je l'ai vu quand Nathanaël est né, ça a été quelque chose de net, parce que les petites, elles ont vu arriver le petit frère et elles l'ont pris en main, à tel point que dès qu'il pleurait, il fallait vite qu'elles aillent le prendre. En fait, elles squeezaient carrément mon autorité. Et il a fallu que je leur dise, vous n'êtes pas la maman, je m'excuse, mais vous n'êtes que les sœurs. Donc, on remettait les choses en place. Et ça a permis de recadrer la situation. C'est vrai qu'ils avaient que 12 et 8 ans, donc finalement, il suffisait de leur expliquer leur rôle. Il suffisait de leur expliquer.
Oui, alors moi, j'ai le cas pour une famille monoparentale. Ça veut dire que j'ai le grand qui a 16 ans et le petit qui va en avoir 12. Donc, le grand veut de temps en temps prendre la place du père, dire au petit ce qu'il doit faire. Et des fois, moi, j'arrive plus à avoir la parole. Ils discutent entre eux. Alors, le grand dit au petit ce qu'il faut qu'il fasse. Puis, tout d'un coup, j'ai dit, attends, je suis là, moi. Je suis la maman. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parce que c'est comme si le grand, il prenait même ma place. Donc, des fois, je suis en retrait et j'ai dit, stop, là, c'est moi qui tranche. Mais c'est pas toujours évident, quoi.
Dans les conflits, un autre point, là, c'est... j'oublie le 14e, non? Ben, on y arrive maintenant. En laissant se développer... C'est pour voir si vous suiviez. C'est le 14e, donc après le 15e, c'est l'ordre normal. En laissant se développer dans la famille des conflits constants, donc on laisse se développer un climat d'insécurité. Une famille dans laquelle il y a des conflits constants. Des conflits constants, quand on parle de conflits, c'est pas seulement des conflits parents-enfants. C'est peut-être des conflits entre parents. C'est peut-être des conflits entre enfants, voire des conflits parents-enfants. Ça, c'est un climat d'insécurité. Ça met nos enfants en colère aussi. Ah oui, nous sommes quand même très gentils parce que nous prenons le problème à la source. Parce que souvent, nous, parents, on va traiter un problème, ça peut être la drogue, ça peut être qu'ils soient mal polis, ça peut être des tas de choses. Quoique j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait certains adultes qui étaient mal polis. Moi, j'ai étonné. Mais bon, il y a des enfants qui le sont. Et c'est peut-être une manifestation de la colère. Donc, quand on commence à traiter les cas que nous voyons, il y en a d'autres dans lesquels ils se mettent, pour lesquels ils se mettent en colère. Si on prend le problème en amont, c'est ça, hein, à la source, peut-être qu'il y a des choses qui se passeront un peu moins. Donc, si on laisse développer dans la famille des conflits constants, papa, maman qui se disputent, les adultes se disputent, ou même des disputes avec d'autres, quand les enfants entendent toujours de la critique à la maison, ou souvent de la critique. C'est le couple qui est ensemble et qui passe son temps à dire des mauvaises choses des autres. Ça, votre enfant se met en colère. Croyez-moi. Mais là où ça se passe. Si c'est des disputes entre nous, ça le met en colère au même titre aussi. Si c'est des disputes entre eux, alors c'est aussi en colère. C'est des disputes entre parents et enfants, enfants et parents. Alors, qu'est-ce qu'il y a des exemples par rapport à ça? Et inventez des exemples puisque ça n'existe très peu. Inventez, pensez aux films, à des films que vous avez vus. Imaginez. Oui? Oui. Ma fille, aïe, 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 je vais prier pendant qu'elle parle.
Je vais rien inventer. Je vais donner mon propre témoignage. On parle d'insécurité et de colère quand il y a dispute. Moi, je crois que... comme il y avait beaucoup de disputes entre mes parents, j'étais très, très mal à l'aise et très insécure. Et je peux dire que mon mal-être a commencé à évoluer en bien-être à partir du moment où les disputes qui avaient lieu devant moi et devant lesquelles j'étais spectatrice ont cessé. C'est-à-dire où il n'y en avait plus. Et la sécurité est revenue à partir du moment où il n'y avait plus ces disputes, donc il n'y avait plus de danger qui était là. Il n'y avait plus risque, parce que dans la tête d'un enfant, quand même, dispute, c'est égal à rupture. On n'a pas cette notion de pardon, de reconstruction, on l'a pas tout ça. Donc dispute égale rupture, et quand les disputes n'ont plus lieu devant nous, eh ben, on n'a plus peur de cette rupture. Et moi, ça a évolué en positif à partir du moment où ça s'est plus fait devant moi.
Donc la dispute dans la famille s'engage ce climat d'insécurité. La sécurité, selon Petit Larousse, c'est une situation dans laquelle quelqu'un n'est exposé à aucun danger. Et j'ai aimé, on n'avait pas du tout parlé avant, quand Sandrine a parlé des disputes que nous avions avec mon épouse. C'était avant d'être chrétien. Ah, vous croyez que c'était hier, hein? C'est avant. Et elle a parlé du danger. Le fait de voir un enfant qui voit les parents disputer, il y a cette notion de danger, de rupture, ça va casser. Et c'est vrai, quand on s'occupe de jeunes et des jeunes chrétiens, Et j'ai pas mal de jeunes avec qui je prie régulièrement, qui viennent me voir, viennent de l'église ici, puis de l'autre, d'autres églises aussi où on va, on en a pas mal. Et souvent, dans leur crainte, dans leur insécurité, dans ce qu'ils vivent, dans leur mal-être, quand il y a le moment de prière, je dis, écoute, simplement on prie. Donne-moi un sujet de prière. Ça touche la relation entre papa et maman. Parce qu'ils savent que si le problème relationnel papa-maman est réglé, eux, le fait d'être insécure, comme disait Sandrine, ça va être réglé. La notion de danger, la notion de que ça va exploser, la notion que ça va loin, on pourra pas faire carrière, on restera pas ici. On va quitter, il y a quelque chose qui va se passer. Simplement à cause de la tension entre les parents. Oui.
Pendant l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, Mathieu il est rentré en école, et il nous a demandé pourquoi il y avait beaucoup de parents de ses copains qui étaient divorcés et pourquoi en divorcer. Alors on lui a expliqué que bon, c'était des personnes peut-être qui se disputaient, et puis à force de se disputer, etc., ça emmenait au divorce. Et puis un jour, il nous a surpris en train de nous discuter, quoi. Et on l'a vu arriver en pleurant. Et il nous a simplement posé la question, nous on lui a posé la question, mais pourquoi tu pleures? Et il nous a dit, vous allez divorcer? Et tout de suite, il en est venu à la conséquence, quoi, au résultat, quoi, ça nous a touché, quoi. Voilà.
Aucun commentaire, hein. Alors à l'inverse, nous c'est vrai qu'on se dispute pas trop. Puis un jour, mon fils Nathanaël, qui était vraiment bouleversé, qui est allé parler à quelqu'un, et cette personne est venue nous voir et dit, alors ça va pas bien dans votre couple? Si ça va bien. Il dit, écoute, Nathanaël est venu me voir et il a dit que vous étiez disputé. Et on s'était disputé, effectivement, un jour on devait mettre la table. Et je sais pas ce qui était passé. Puis j'ai dit à ma femme, écoute, t'as pas à faire ce truc-là comme ça. Elle m'a dit, ouais, moi je vais revenir. Je dis, écoute, fais à ta tête, de toute façon, c'est toujours toi qui gagne, un truc comme ça. Terminé. Et c'était quelques secondes. Et c'est relatif. Tout est relatif par rapport au climat ambiant. C'est-à-dire que même si vous disputez quasiment jamais, le jour où il y en a un qui va élever la voix, il va y avoir une incidence qui sera quasiment aussi grave que le couple qui se dispute régulièrement. Et vous comprenez? Donc, faut... Voilà. Mais très intéressant ce témoignage. Très intéressant. Oui, un autre point. Alors, je dis plus de numéros, comme ça, vous... Puis vous avez qu'à prendre le fascicule, de toute façon. Vous aurez les numéros. Dans numéro X. En leur faisant porter des fardeaux qui ne sont pas les leurs. Ça les met en colère. Leur faire porter des fardeaux qui ne sont pas les leurs. Combien de parents je rencontre et on parle de projets scolaires, on parle de choses, et puis j'entends, mes parents ils peuvent pas financièrement. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, ils portent le fardeau de vos factures. Et je dis vos parce que nous, on essaye de les épargner de ça, ou on leur partage de façon positive. Donc ça veut dire que le fardeau, le côté des pépettes, des sous, des créances, je crois que c'est bien que les enfants soient au courant, mais pas au courant de tout. Et s'il y a un coup dur... Moi, je vous encourage à partager avec foi le coup dur. Sûr que vous connaissez l'histoire en recevant la facture EDF. Si quand vous recevez la facture EDF, vous avez prévu qu'elle fasse 100 euros, et elle fait 500 euros, si vous faites un arrêt cardiaque devant l'enfant, que les pompiers viennent vous chercher, que l'enfant prie pour votre résurrection, que ça marche pas, et puis maman dit, mais non, parce qu'on va pas payer, on va pas manger. Je sais pas à quoi ça sert de louer Dieu après le résultat, hein. Là, vous avez mis un fardeau sur l'enfant, et c'est un enfant qui va être en colère. Est-ce que c'est légitime de faire porter ce fardeau aux enfants? Moi, je dis non. Parce que l'enfant, il y aura le, et la Bible dit non. Il y a un temps pour chaque chose, nous dit l'Ecclésiaste. Et je pense pas qu'un enfant, ce soit le temps pour lui d'assumer les factures d'électricité. Sauf si c'est lui qui laisse toujours allumer, et encore, peut-être l'expliquer avant. Il y a peut-être une raison qui laisse allumer. C'est encore peut-être une manifestation de la colère. Mais c'est pas le thème, on va pas en parler maintenant.
Pardon? Ça, c'est bien. Ouf. Quand même quelqu'un qui réagit. Je suis content. Alors, faire porter un fardeau qui n'est pas le sien à un enfant engendre la colère. Un micro là-devant. Le fardeau, c'est une charge pesante que la personne porte.
Le fardeau peut devenir aussi un événement heureux. Parce qu'en fait, par rapport à un problème d'argent, mes parents, ma mère a refusé de payer mes études. Elle avait payé les études à tous mes frères et sœurs, on est cinq, elle a dit non pour moi. Alors là, moi j'ai pris la colère, je me suis dit bon, tant pis, j'ai décidé de faire des études.
Donc j'ai pas tort, hein, vous êtes mis en colère.
Ben oui, je suis mis en colère et la colère elle remonte encore.
Ah.
Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Je dis franchement, j'ai prié et le ciel m'a permis d'avoir une bourse de promotion supérieure du travail. Donc j'ai eu mes études payées pendant toutes mes années d'études. Donc finalement, par rapport aux autres, je me suis dit, j'étais une étudiante riche, j'avais une voiture parce que j'avais de l'argent. Et aujourd'hui, je commence à penser aussi à l'après, la vie professionnelle, et j'ai réalisé que finalement, le fait de m'avoir mis dans une situation où financièrement, il y avait une grande injustice dans la famille, puisque moi, on ne me payait pas mes études, et ça devient un événement heureux parce qu'en fait, je me retrouve avec plein d'années, toutes ces années d'études, qui sont des années prises en compte pour la retraite.
Mais je crois qu'il y a différentes façons de procéder. Et ça, c'est un excellent témoignage. Mais je crois que le fait de mettre un fardeau, c'est comme il y a le poids qui arrive. Et quand on redonne le fardeau à quelqu'un, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le porter. Si j'ai une tonne à porter, je dois porter la tonne, si je suis le responsable dans ma maison. Et donner le fardeau à l'enfant, c'est par exemple, j'arrive pas à porter la tonne, alors je vais lui donner 250 kilos à lui, 250 kilos à mon épouse, 250 kilos à une fille, 250, et moi je porterai 250 kilos. Et dans ce sens-là, c'est pas juste. Parce que l'enfant n'a aucun moyen, ne serait-ce que financier, de payer la facture. On prend l'exemple de la facture, il y en a plein d'autres. Donc est-ce qu'il y a d'autres exemples autres que financiers sur faire porter les fardeaux aux enfants?
Moi, j'avais un exemple qui me touche personnellement dans mon témoignage. C'est que je suis venu au Seigneur grâce, je dirais, à la division de mes parents. Mais à l'époque, il y avait un fardeau assez lourd. C'est que la décision de la séparation a été faite lors d'une réunion de famille à table avec mon frère, ma sœur, mes parents. Ils ont demandé aux enfants de décider qui devait rester.
Est-ce qu'il y a un autre exemple?
Ouais, moi c'est professionnel, donc avec ma carrière militaire, j'ai fait porter le fardeau à mes enfants et à mon épouse de subir toutes les mutations que j'ai subies, alors qu'eux ne l'avaient pas choisi. Voilà.
Nous entendons des nouvelles voix. Et si elles nous font pleurer?
Mais moi, ça rejoint un petit peu le témoignage d'Alex. Moi, mes parents se sont séparés. J'avais 9 ans, 8-9 ans. Et il y a eu un tas de circonstances. Mon père voulait un droit de visite, ma mère ne voulait pas. Enfin, tant et si bien qu'il a fallu lui faire passer chez les avoués, non, pas les avocats à l'époque, c'était les avoués. Il y a eu des procès, enfin, il y a tout un tas de choses. Et moi, étant l'aînée, la seule interlocutrice de ma mère, puisque ma sœur était toute petite, ben, j'ai profité de tout. Maman m'a tout raconté. Et je vais chez l'avoué, et je suis ici, et il y a le jugement, et voilà. Alors voilà. Ça a été un très lourd fardeau que je traîne encore aujourd'hui, je peux dire.
Quand les parents partagent des avis sur les oncles, les tantes, à des enfants, quand ils parlent, quand il y a des divorces, hein, de prendre parti pour l'un, pour l'autre, ça, de grâce, ça met des pressions sur les enfants, ça met des étiquettes sur le nom des gens. Et ça, je peux vous dire que c'est des fardeaux et les enfants sont accusés, les enfants ne savent pas comment gérer ces choses-là. Il y a des choses qui vont se passer entre adultes, mais les enfants n'ont pas à être touchés par ces choses-là. Ils en voient suffisamment, c'est pas la peine de leur raconter que l'autre c'est un imbécile parce qu'il a fait ça et ça. Alors s'ils l'ont pas vu, tant mieux. S'ils disent qu'il est bien, même si vous pensez que c'est un imbécile, on se tait, on laisse l'enfant vivre son illusion, il aura son lot de soucis plus tard. Oui?
Oui. On avait eu une fois quand j'étais plus petite, pas plus petite, il y a une, il y a une un peu plus d'une dizaine d'années de ça, et on était avec des personnes à table, et ces personnes avaient besoin de se décharger de fardeaux, puis elles ont commencé à parler de personnes et d'autres, et ça s'est repassé à un autre pas, et j'ai assisté à tout ça, et je voudrais dire que cet été, j'ai dû voir mon pasteur pour lui dire « Ça va plus, j'ai les oreilles sales. Je m'aperçois qu'il y a des personnes que j'aime pas, mais elles m'ont rien fait. J'ai rien à voir avec tout ça et ça m'a fait des blessures. » Et je vous assure, j'étais en larmes et j'ai demandé la prière parce que j'avais pour moi les oreilles sales.
Moi, quand j'avais 14 ans, ma sœur en avait 20 et elle avait deux prétendants. Et elle est venue me voir et elle m'a dit « Je sais pas lequel choisir. » Et moi, j'ai tout de suite eu l'intuition que c'était une question importante. Et la réponse m'est venue tout de suite, ni l'un ni l'autre. Mais j'ai pas osé le dire. Et ça, je m'en souviens encore aujourd'hui.
Et elle a fait quoi?
Elle en a épousé un. Mais...
Un des deux?
Oui, elle a divorcé 5 ans plus tard.
Vous vous rendez compte? Poser une question de cette importance à un enfant. Après, quand il y a le divorce, inévitablement, l'enfant est... C'est fou, ça, quand même, hein?
Oui.
Tout à l'heure, quand tu as dit que c'était important de mettre au courant, mais pas au courant de tout, parce que moi, je me souviens, étant petite, j'étais très sensible à ce que vivaient mes parents, mais on m'expliquait rien. Et je voyais ma mère pleurer, mes parents malheureux. Et j'aurais préféré savoir des fois.
Mais je crois que si on doit dire des choses à des enfants, aux enfants, c'est pas tout. Et savoir comment leur présenter les choses. Et là, il faut vraiment la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, et puis le temps de Dieu. Surtout pour des cas douloureux.
Moi, quand j'étais enfant, ma mère me discriminait toujours mon père. Et je dis, il faut faire très attention. Je me disais qu'il était comme ci, comme ça, qu'il était coureur. Ou... J'en étais arrivée à surveiller mon père, voir si c'était vrai. J'ai passé des mois à savoir ce qu'il faisait. Et ça m'a mis donc pendant des années et une pas confiance dans l'homme. Pour moi, tous les hommes étaient pareils. C'était des gens sales. Des gens, des hommes, c'était, il n'y avait aucun sérieux. Je croyais surtout pas à l'amour à un homme. Et tout ça parce que ma mère me disait toujours ce que faisait mon père, me le discriminait, dire tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il lui avait fait. Et je dis, faut faire attention, quoi. De pas, même s'il y a des choses dans le couple quand ça va pas, de pas dire aux enfants. Je crois qu'il faut pas tout dire aux enfants. Pour qu'il garde l'image du père comme il doit être, même s'il a fait quelque chose de pas bien. Parce que toute sa vie, après, en tant que même adulte, on garde ça. Bon, il y a la solution dans le Seigneur, bien sûr, mais pendant des années, on traîne ça.
Tout à fait. Le Xème point. En exprimant des préférences pour un frère ou une sœur. Les préférences, c'est avoir plus de faveur pour une personne qu'une autre. Est-ce que vous avez des exemples? Alors, pas forcément du vécu, hein, parce qu'on a tout ça, le mouchoir à la main. C'était le séminaire. Tu reviens, non? On va prier après. Donc, exprimer des préférences pour un frère ou une sœur, ça, c'est quelque chose qui met vraiment l'enfant en colère. Et alors, contrairement à ce que l'on peut penser, ça met les deux en colère. Aussi bien celui qui est élevé que celui qui est en dessous. Oui.
Oui, pour ma part, ce dont tu viens de parler est arrivé dans notre famille. À savoir que j'étais le garçon, le seul garçon de la maison, et j'avais une sœur aînée et une sœur plus jeune. Et ma sœur aînée était la tête de la famille, la grosse tête, on dira. Le garçon du milieu était, comme mes grands-parents m'ont eu dit, la tête d'âne. Et ma sœur la plus jeune, qui était une bonne élève. Ça a démarré très tôt dans l'enfance. Et ça m'a toujours perturbé au niveau des études. Et un jour j'ai dit... Vous inquiétez pas, je vous aurai au tournant et je me vengerai. élevé malgré tout dans une famille chrétienne.
Ça, c'était une manifestation de la colère. Parce que la vengeance dont on va entendre, je ne sais pas comment ça s'est passé ou pas, peu importe, mais si on traite la vengeance, enfin, on ne peut pas traiter la vengeance, quelle qu'elle soit, sans revenir à la source.
Et donc, j'étais un enfant quand j'avais prononcé ces paroles. Fort heureusement, Dieu travaille dans les cœurs. Et arrivé à l'âge de 16 ans, j'ai été séparé d'un de mes meilleurs amis accidentellement. Et là, j'ai réalisé que je tenais énormément à mes sœurs. Cette vengeance, donc, je ne l'ai jamais portée. Et je n'ai jamais rien fait contre mes sœurs. Au contraire, je les ai toujours adorées. Malgré ce que j'ai pu subir enfant, puisqu'après, ça s'est beaucoup mieux passé au niveau de mes parents, étant donné que j'ai repris la succession de l'affaire. Et ça aussi, quelque part pour eux, ils l'attendaient. Et ils me l'avaient... Mon père a su me transmettre l'amour de la terre. C'est ce que je peux... Je le remercie de ce côté-là, mais par contre, c'est vrai que j'ai énormément souffert de cette différence entre mes sœurs et moi. Et attention à nos enfants. Attention de ne pas leur dire « Toi, tu es la tête d'âne. Et toi, tu es le botch. »
Tu es quoi?
Le meilleur.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Personne qu'on n'aurait pas entendu. Oui.
Moi, j'aurais témoigné de... J'ai une sœur qui est... Bon, j'ai deux sœurs, mais dont une qui est au milieu, qui a 4 ans de plus que moi. Et ma mère faisait souvent des différences entre nous deux, dans le sens où, au niveau santé, j'étais malade quand j'étais plus petite, donc on prenait apparemment soin davantage de moi. Et souvent... Malgré qu'elle a été la plus âgée vis-à-vis de moi, elle devait aller se coucher de bonne heure, elle n'avait pas le droit de regarder la télé, alors que moi, on me laissait faire ces choses-là, quoi. Et ce qui fait que ça a creusé un fossé entre nous deux et on n'a jamais vraiment pu s'entendre, quoi. Et pendant des années, elle m'en a voulu sans vraiment m'en parler. Elle devait faire les travaux difficiles dans le jardin et tout ça, et moi, je restais à la maison devant la télé ou... Ça, c'est quand même des différences énormes, quoi. Et il y a quelques années, je lui ai demandé comment ça se fait qu'on s'entendait pas, qu'on pouvait pas, on n'arrivait pas à se parler ni rien. Et puis bon, elle m'a sorti tout ça, quoi. Toi, t'étais la princesse, et moi, il fallait que je sois Cendrillon. Et puis bon, et puis on a pu, je lui ai demandé pardon pour ces choses-là, parce que j'étais plus petite et que je me rendais pas compte. Le Seigneur a permis de guérir nos relations, et bon, maintenant, on a des relations, ça va, quoi. Ça va en progressant, mais, je veux dire, à la base, moi, j'en étais pas consciente, quoi. C'était un sens de dire que, on souffre tous les deux. Aussi bien celle pour qui on a la préférence et celle pour qui on l'a pas, quoi.
Ça veut peut-être dire, et j'espère que vous prendrez tous la cassette ou le CD de cet enregistrement, que des fois, il se peut qu'il y ait des problèmes entre nos enfants, mais finalement, nous pouvons peut-être être la source de ces problèmes. Parce qu'on va donner préférence à l'un plutôt qu'à l'autre. Et peut-être au lieu de... Tant Marie-Claire va prier pour toi, c'est pas grave. Bah, peut-être qu'au lieu de vouloir régler le problème entre les enfants, c'est peut-être à nous de régler notre relation avec un enfant, puis avec l'autre, et de voir si nous... agissons de la même façon avec chacun des enfants. Quand je dis que c'est pas grave, c'est que le Seigneur est là et s'en occupe, vous m'avez compris. D'accord? Donc s'il y a des tensions avec vos enfants, prenez peut-être du temps devant Dieu, prenons du temps devant Dieu pour savoir si nous-mêmes ne sommes pas à la source de ces tensions. C'est très intéressant comme témoignage. Et souvent les parents, on ne se rend pas compte que cette rivalité... Moi, mon papa, c'est un spécialiste, mais lui, il le faisait ouvertement. Il disait à mon frère que j'étais mieux que lui, il me disait à moi que j'étais mieux que mon frère. Mais le gros problème, c'est que ça s'est passé tout le temps. Mais il y a des moments où moi, je savais pas qu'il disait ça à mon frère savait pas. Donc on avait comme, on s'aimait pas trop, on pouvait pas trop se voir, mais on savait pas pourquoi. Parce qu'on n'arrivait pas à communiquer. Et puis un jour, il a fallu attendre quelques années, il m'a dit, ouais, tu sais, papa, il dit toujours que t'es meilleur. J'ai dit, mais c'est pas vrai. À moi, il dit toujours, toi, t'es meilleur. Et alors qu'on allait se disputer violemment, il m'a dit, attends, on va discuter là. Parce que j'étais le frère aîné. Et on a parlé. J'ai dit, mais il te dit quoi, papa, sur moi? Ouais, bah, que toi, tu réussis là, que tu fais ça, que tu fais ça, que tu fais ça, que tu fais ça. J'ai dit, il te dit ça à toi? Il dit, oui. J'ai dit, mais moi, il me dit pareil sur toi. Il me dit que toi, tu fais ça, que toi, tu fais ça, que toi, tu fais ça. Et on est tombé dans les bras l'un de l'autre, et notre amour est indestructible. Et on le sait. Et quand on se voit, on dit, alors, il t'a dit quoi ces derniers temps? Ah ben, il m'a dit que toi, t'as fait ça, c'est super. Alors après, c'était pour l'éducation des enfants. Moi, j'ai élevé mieux mes enfants que les siens. Puis après, lui, c'était l'autre, vous voyez. Et heureusement qu'on a eu ce rapprochement, ce temps-là. Mais on s'en aperçut quand même un peu tard. Donc, que nous soyons interpellés, nous, en tant que parents, ce séminaire qui nous concerne, nous, ce séminaire-là, hein, que nous puissions prendre du temps devant Dieu, savoir quelle attitude nous avons avec chacun de nos enfants. Ok? On avance un tout petit peu. Oui, il y a une personne là. Oui, oui, oui.
Non, moi, je voulais simplement dire que pour moi, c'était un peu pareil. C'est que dans la famille, on était 9 enfants. Donc, les premiers de mes frères ont été vraiment voulus. Et puis, ben, comme par hasard, arrivé à moi, 9e, et bien là, mes parents m'ont carrément dit, et j'ai entendu ça toute jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est que j'étais le déchet qu'on n'a jamais voulu. Donc, on grandit avec ça, on entend ça, et puis on voit les aînés qui n'ont jamais vécu la même chose. Et ma réaction, quand ils sont décédés tous les deux, puisqu'ils sont décédés à une semaine d'intervalle, et bien ma réaction de colère, ça a été dire, je suis contente qu'ils soient morts tous les deux. Ça a été ma réaction en tant que... Ben, j'avais 14 ans. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis en fait, ça a fait de nous, la famille, une famille complètement éclatée, une famille déchirée. Il y a des frères que j'ai pas vus depuis 19 ans. Ce que je sais des uns et des autres, c'est que quand ils ont eu leurs enfants, ben, ça fait exactement la même chose. Et c'est des familles éclatées aussi. Donc, moi je remercie le Seigneur de... l'avoir rencontré, et puis de faire que ma famille, elle soit pas, moi, déchirée.
Ça, c'est exactement le point suivant, le 19e point, en lui faisant sentir ou savoir qu'il n'était pas désiré. Ça, c'est une colère aussi, une réaction. Donc, comme le témoignage, là, qu'on vient d'entendre maintenant, qu'un enfant, on lui fait sentir ou on lui dit. Moi, j'ai eu dernièrement, il y a un an et demi, un jeune chez moi, et qui les parents sont divorcés. Puis il était à la maison, puis il a pris le petit déjeuner à la maison, on a mangé ensemble. Puis il me racontait tout ce que des gens lui avaient dit sur sa maman, que c'était une ci, que c'était une là. Et moi, j'ai dit, tu sais, les personnes qui t'ont dit ça, même si c'est des gens qui sont proches de toi, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ta maman, c'est quelqu'un de merveilleux qui t'a conçu dans l'amour avec ton papa. Il m'a dit, mais non, moi, il y a telle personne qui me dit toujours qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Je dis, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Ta maman t'a aimé, t'a fait avec amour, parce que moi j'ai vu quand tu es né. Ouais, mon père m'a dit que j'étais pas désiré. Je dis non. Et moi j'ai envie de pleurer, j'ai versé des larmes. Et je dis non. Tu étais désiré, tu es le résultat de l'amour entre ton papa et ta maman, et j'en suis témoin. Donc la personne qui t'a dit ça, c'est parce qu'elle est en colère, mais c'est pas juste qu'elle t'ait dit ça. Et on a fini de prendre le petit déjeuner, et puis quand ce jeune homme est parti pour travailler, il m'a dit... Ben, tu vois, au moins, la journée commence bien aujourd'hui. Je dis, ouais, elle commence bien. Parce que j'ai prié avec lui, hein. Et il a pleuré. Il m'a dit, ben, elle commence bien parce que j'ai appris que j'étais désiré. C'est merveilleux, ça, hein. C'est merveilleux, ça, hein. Alors, en fait, on doit faire attention, hein. On doit faire attention à ces choses-là aussi. Quand nous, on parle, bon, ben, il y a des couples monoparentaux ici. Si je connais l'homme ou si je connais la femme, je n'ai pas à dire du mal de l'autre à l'enfant. Je n'ai pas à critiquer, parce que lui, il donne une image négative, il donne une image d'être comme non désiré, d'être comme un accident. D'accord? Donc on doit faire attention, qui plus est, comme nous l'a raconté comme le témoignage qu'on vient d'entendre aussi, quand la personne dit aussi qu'elle n'est pas désirée. Alors je ne sais pas si on a besoin d'autres témoignages dans ce sens-là, je crois que ça parle suffisamment. Allez, un témoignage, Dani, ça m'intéresse. Ouais, pardon, Marie a le micro, vas-y.
Quand, en fait, les parents, ils attendent un garçon et qu'ils ont une fille, ça, ou l'inverse.
et que ça se reporte sur l'enfant et qu'il est élevé de la façon du sexe opposé, quoi. Mmh. Si cette petite était une fille, t'aurais fait de la danse, t'aurais fait du piano, ou si t'étais un garçon, je t'aurais fait faire du rugby, quoi. Mmh. Et ça, je crois que c'est difficile aussi. Mmh.
Tout à fait. Là aussi, l'enfant se sent pas désiré, puisque là, apparemment, les parents désiraient quelqu'un du sexe opposé.
Quand on vit séparé du papa, les enfants se demandent toujours si on les a désirés.
J'ai entendu ça.
C'est normal qu'ils sentent ça.
J'attends. Je peux pas ne pas réagir à ce que tu dis. Pourquoi? Les personnes qui sont autour d'un divorce, laissez-les tranquilles. Tu es d'accord, Dani?
Tout à fait.
Ne jugez jamais celui ou celle qui a divorcé. Parce que sinon, vous accentuez ce que Dani dit maintenant, l'enfant ne se sent pas désiré. Donc, en prenant parti pour l'un ou l'autre, vous dites à l'enfant, tu n'es pas désiré, tu n'es pas désiré, tu n'es pas désiré, tu n'es pas désiré. Merci, continue.
Et mes enfants m'ont souvent demandé, mais est-ce que papa nous voulait? Et ça, j'ai pu leur certifier qu'il les voulait.
Oh,
même si la suite a été différente.
Commandez les cassettes, écoutez ça, travaillez ce que nous vivons là autour de nous. Travaillez, quand vous quittez ce lieu, travaillez ce que vous avez reçu là. Oui. Ou alors, non, parce qu'on a d'autres points. Excusez-moi, mais c'est moins 20, hein. Il y aura d'autres points sur lesquels on pourra s'exprimer. En exprimant notre doute sur leur capacité, c'est un état d'incertitude sur la réalité des faits, manque de confiance, en n'ayant pas confiance en l'enfant, on exprime notre doute sur leur capacité. Je veux faire ceci. Ah oui, mais tu vas vraiment savoir le faire? Oui. Mais tu en es sûr? Tu vas vraiment y arriver, là? Est-ce que vous avez des exemples? Un exemple que vous pouvez inventer, hein? Exprimer notre doute sur les capacités d'un enfant.
Oui, moi je voudrais témoigner par rapport à ce que j'ai toujours entendu. Ma maman m'a beaucoup dévalorisée. Et le pire, c'est qu'elle me reproche de ne pas avoir de confiance en moi.
Ouais.
Mais après, j'ai su pourquoi. Alors, je donne un ou deux exemples. Par exemple, je sais pas bien faire la cuisine. Et elle m'a toujours dit, de toute façon, t'es nul en cuisine, t'y arriveras pas. Mais elle a jamais pris le temps, réellement, de me le montrer sans essayer de m'abaisser en me le montrant. Ça aussi, c'est important. De le montrer, mais de m'apprendre, par exemple, mais sans dire, tu vois, je suis meilleure, je t'apprends, mais je t'écrase. Et donc, moi, automatiquement, dans ces domaines-là, j'ai refusé d'apprendre, puisque je me sentais pas... J'avais de la méfiance. Voilà.
Un autre point. En se servant, ce qui met nos enfants en colère aussi, ce qui risque de mettre en colère, en se servant des enfants, et plus particulièrement des adolescents, pour exprimer les vieilles colères que nous avons gardées. Par exemple, on trouve ça chez les 68 arts. Les peace and love, les hippies, les... Alors cela, il n'y en a pas ici. Nous sommes tous nés après 68, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et ça c'est tellement évident, c'est la colère contre l'autorité. On retrouve ça. Les personnes qui ont... Moi, en 68, j'étais sur les barricades, j'avais 17 ans, c'était formidable. Mais je sais que j'ai été délivré de cet esprit-là, à un moment donné. Il a fallu qu'on prie pour moi par rapport à ça. Et ce qui m'a permis de ne pas refiler ça à mes enfants. Sinon, je serais encore un peu hippie sur les bords, ou je ne sais pas quoi. Puis j'aurais refilé ce refus d'autorité à mes enfants. Donc, se servir des enfants, particulièrement des adolescents, pour exprimer les vieilles colères que nous avons gardées. Les colères contre la société, par exemple. Il y en a plein d'autres, hein. À vous d'imaginer pendant ce temps-là où je parle, moi. C'est pour ça que je parle, pour que vous imaginiez un peu des choses. Par exemple, la société est pourrie. J'ai des pourris. Puis on va élever notre enfant dans la société est pourrie. Hein, j'ai des pourris. Et on a des gamins, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. À les entendre, on est persuadé qu'ils ont fait 68. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité de cette vieille colère, de cette vieille rancune contre la société que papa ou maman avait. Si c'est les deux, c'est la catastrophe. Hein? Et puis, il va même s'habiller comme les hippies de ce temps-là à cause de cette... Parce que on a refilé ça. Alors, c'est un exemple que j'ai, parce que j'ai failli le vivre et j'ai vu des gens qui l'ont vécu. D'accord? On a, est-ce que vous avez d'autres exemples dans ce sens-là? Où on sert des ados pour refiler nos vieilles colères. Le monde est pourri. Tu n'y arriveras pas. C'est dur. Parce que pour nous, ça a été dur, alors on va leur refiler ça. Puis la société, c'est un monde, on peut pas percer, on peut pas réussir.
et on leur refile ça. Et le gamin, il est tout neuf, il grandit, puis il a déjà ce bagage-là, le pauvre gamin. Quand on l'entend, il dit aïe, 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 aïe. Alors, on continue. Oui.
Ouais, mes parents qui étaient très racistes, qui sont toujours très racistes d'ailleurs.
Voilà.
Et qui m'ont inculqué que, concernant les Arabes, ils devraient être morts, quoi. Et donc, quand on était tout petit, on entendait que ça, quoi. Donc, on a vécu avec ça. Et heureusement, le Seigneur m'a libéré de ça. Mais mes parents, c'est toujours les Arabes, ils disent les ratons. Oui. Mmh. Voilà, donc, voilà.
C'est comme moi, c'est contre les Allemands. Ah, ouais. Alors, je connais tout le nom des Allemands, les Spums, les Schleux, les... je connais tout ça. Ah, imaginez-vous, j'étais guéri de ça il y a 2 ans. Parce que j'ai prié avec un pasteur qui a des souches allemandes. Et il a prié, et je lui ai dit, prie pour moi en allemand, s'il te plaît. Et quand j'ai entendu cet accent, qui est quand même un accent qui est moins, légèrement moins doux que le langage anglophone, je l'ai trouvé beau pour la première fois de ma vie. Mais j'avais cet héritage-là. Et moi, quand on parlait du peuple allemand, pour moi, c'était un peuple qui était dur, qui était carré, qui était, je le connaissais pas. En plus, j'ai fait mon armée en Allemagne, à 20 ans. Donc les bagarres contre les Allemands, c'est super le soir. On s'est éclaté, c'est le petit cas de le dire. Vous comprenez? Tout ça, c'était entretenu. Et c'était un héritage. C'était, comme on m'avait redonné ça, c'est une vieille colère que mon papa avait contre ce peuple-là. Il me l'a refilé.
Je pense que c'est le pasteur qui était venu ici, non? On s'était avancé, oui, pour la prière. Je veux dire, j'ai complètement été guérie. Et la preuve, c'est que depuis un mois, là, je prends des cours d'allemand.
Et alors, quand on entend la louange en allemand, c'est vrai que ça fait un peu saccadé, mais c'est tellement beau. Ça fait autant saccadé que l'accent anglophone est doux, mais c'est tellement beau. La louange. Alors j'ai un CD de louange en allemand maintenant. Formidable, hein? Un autre point, le temps passe. En leur accordant tout ce qu'ils demandent. Donc les exemples, il y en a. On ne va pas en trouver. Un autre point. En les manipulant affectivement. Ça, c'est le chantage affectif. Est-ce que vous avez un exemple? Pardon, qui est-ce qui n'a pas d'exemple de chantage affectif? Alors, citez un exemple de chantage affectif. L'inventer, hein, ou faire croire que vous l'inventez. Dis pas de nom.
Non, non. Les enfants, quand ils se disputent trop, qui me font fâcher, ils disent « Tu vas voir, maman, elle va aller à l'hôpital ou elle va mourir. »
Vous savez qu'il y a des gens qui se rendent malades pour qu'on s'intéresse à eux. Il y a des personnes qui se rendent malades pour qu'on s'intéresse à eux. Est-ce que vous avez des exemples de chantage affectif? Oui.
Moi, je me rappelle, on est 3 enfants chez moi, et je me rappelle d'une fois, mon papa était commercial, il partait toute la semaine. Et une fois, on était à table avec mon frère et ma sœur, et on faisait que se disputer. Et maman n'arrivait pas du tout à rétablir la paix, ni l'ordre, ni quoi que ce soit. D'un coup, elle s'est levée, elle a dit, ben, puisque c'est ça, je m'en vais, je vais faire ma valise et je vous laisse tout seul. Et ça m'a marqué, je m'en rappelle encore, quoi.
Je suis étonnée qu'il n'y ait pas plus de mains qui se lèvent.
Alors moi, c'est un peu spécial. C'est ma mère qui jouait du chantage quand on s'est mariés. Alors, si on n'y allait pas, et bien, soit qu'elle nous téléphonait, elle nous faisait du chantage au téléphone, on m'abandonnait, etc. Et même, ça a été jusqu'à se tenter de se suicider.
Et quand est-ce que ça va? Oui. C'est que le chantage affectif, c'est une puissance démoniaque. Et quand on commence à mettre le doigt dedans, on commence par le doigt, puis après ça continue. Oui, vous venez plus, vous m'aimez plus, je suis seul, là, 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 là. Là, les personnes qui font ça appellent une puissance qui s'appelle la mort. Et la puissance de mort, elle rentre par une autre puissance. Elle n'arrive jamais toute seule. Elle rentre par une autre puissance qui s'appelle la dépression. On m'aime plus, je suis tout seul, personne m'aime. Là, tu appelles la mort via la dépression. Donc là, tu n'es pas loin de la dépression. Et quand tu arrives dans la dépression, tu as la puissance mort qui trône avec la puissance suicide qui est là. Tout ça s'appelle le rejet. C'est de la même famille. Donc attention au chantage affectif. Voilà, un autre point. En se servant de la Bible à des fins répressives. Est-ce que vous connaissez pas ça? Oui, au fond, à droite. en se servant de la Bible à des fins répressives.
Oui, moi pour ma part, j'ai un exemple. Ma mère s'est convertie quand j'avais, je devais avoir 15 ans. Et moi, j'ai commencé à fréquenter les églises dans les alentours de 16 ans. Et dès que je faisais des choses qui convenaient pas, elle prenait un malin plaisir de me dire « Ouais, tu fais pas plaisir à Jésus, tu laisses rentrer le diable dans ta vie. » Et moi, en plus, je fréquentais que le groupe de jeunes de l'église. Et honnêtement, ce que ça faisait en moi, c'était rien du tout, quoi. Ma démarche avec Dieu était très limitée, parce que j'y allais comme si j'y allais dans un club de sport, et que je m'étais fait des copains. Mais quand ma mère me parlait comme ça, moi je me braquais en plus contre Dieu, plutôt que d'avancer dans un sens positif. Quoi.
Encore un témoignage, deux témoignages, trois témoignages. Trois témoignages, Laetitia, Janine. Et là-dedans.
Un truc tout bête quand on entend, enfin souvent quand on est enfant, on tombe et on te dit « Ah, tu t'es fait mal, et ben c'est le bon Dieu qui t'a puni. » C'est bête, mais je vous garantis que ça marque. Et ça vous donne une mauvaise image de
moi. Je dois faire mon mea culpa parce que c'est une erreur que je trouve très souvent faite. Moi, mes enfants faisaient des camps en biblique, quand on était à l'action biblique, et chaque fois qu'ils revenaient et qu'ils recommençaient à faire leurs bêtises, je disais « Ben alors, c'est vraiment pas la peine que vous alliez là-bas, hein. » Je sais pas à quoi ça vous a servi. Tu vois, je pensais qu'ils allaient revenir vraiment comme des anges.
Mais une fois, ton Philippe a dû revenir sur un petit nuage avec des ailes. J'imagine bien comme ça, d'ailleurs.
Et j'avais un de mes fils, quand il était petit, il avait 7-8 ans, et il n'était pas trop courageux, il était un peu flemmard, il ne travaillait pas trop bien à l'école. Alors, j'allais prendre la Bible et je lui lisais le passage paresseux. Alors ça, je lui ai lu ce passage, je lui garantis.
À qui t'as fait ça?
À un de mes fils, il n'hésite pas à dire de nom, alors, comme j'en ai trois.
C'est pas Eric, non? Bon, pas Philippe, non? Faudra qu'on se voie.
Oui, quand j'étais petit, on m'a dit aussi, le petit Jésus t'a puni. Le résultat, c'est qu'à l'âge de 14 ans, ça a été une catastrophe. J'ai déclaré à mes parents, je suis athée, et sincèrement, je me suis senti soulagé après. J'étais mieux, parce que je dis, il m'embête, c'est l'autre mot que je pensais, mais c'est très grave. C'est très grave, parce que les années ont passé, le jeune que j'étais s'est enfoncé, et heureusement que, un jour, ça m'a pris, ou on m'a pris à l'âge de 22 ans, je sais pas ce qui m'est arrivé. C'était d'un seul coup, j'ai senti que je croirais en Dieu pour toujours. Et malgré les difficultés, j'ai prié. Il y a d'autres personnes dans ce cas, dans la société, elles rejettent Dieu, et c'est dommage. C'est une catastrophe, cela, pour elles.
On voit encore un point, puis après on va prier. Il y en a d'autres points, mais prenez le fascicule. En les châtiant durement corporellement. Est-ce qu'il y a besoin d'exemples? La colère, la manifestation de la colère, qui est la violence, ne doit jamais, je dis bien jamais, être due à une fin de journée où on est fatigué, et où on va passer ses nerfs sur l'enfant. Je ne sais pas si vous avez vu les quelques 25 points, je crois, qu'on a commencé à traiter. C'est simplement comment nous incitons nos enfants à la colère. Et au bout de tels enseignements, d'abord on va prier, hein, parce que moi quand je vois combien de fois j'ai réagi par rapport à la colère de mes enfants, qui ne savaient pas gérer leur colère. Et finalement, quelque part, j'étais un peu à la source de leur colère, ne serait-ce que dans les points que nous avons vus. Alors, je vous propose qu'on puisse se mettre par groupe. On prend en une minute, je suis sûr que vous êtes capable de vous mettre par groupe de 6. Voilà, on laisse les notes par terre, on se met par groupe de 6, et je vais vous inviter simplement à prier ensemble. Voilà. Mettez-vous ensemble, et simplement, vous allez, oui, voilà, rebougez les chaises, n'ayez pas peur. Rebougez les chaises. Et simplement, vous allez prier. Nous sommes 6 et on n'a que 5-6 minutes, vous voyez, le temps est compté. Et simplement, dans les groupes, chacun votre tour, vous pouvez dire, moi, il y a un point qui m'a touché, c'est ce point-là, alors j'aimerais qu'on prie pour ça. Allez-y, faites-le. Et vous priez tous ensemble, ne serait-ce que une minute pour la personne, mais simplement vous le déliez rien du tout. Vous dites, Seigneur, sur le point que mon ami qui est là, qui a partagé, eh ben, je veux demander ta grâce, je veux demander ton pardon, et puis qu'il puisse quitter ce lieu comme étant renouvelé au nom de Jésus. Vous savez, c'est une prière qui a duré 15 secondes, mais c'est une prière qui va délivrer de l'accusation. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour accuser, le Seigneur est venu pour consoler, pour édifier, pour faire du bien. Il nous envoie pour panser les blessures aussi. Ok? Alors c'est un moment où les blessures sont pansées au nom de Jésus. Allez-y. Vous avez une minute chacun d'exprimer un point et puis que les autres prient pour vous. Dans Ésaïe 61, il est dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Amen. Voilà ce que Dieu fait. Dieu nous restaure. Dieu ne nous accuse jamais. Dis à ton voisin, Dieu ne nous accuse jamais. Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseigne-moi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.